100% d'Europe, Juliette Rangeval.
Bonjour, la course au 10 Downing Street est ouverte. Pour succéder à Theresa May comme Premier ministre du Royaume-Uni, il faut d'abord être élu à la tête du Parti conservateur. Les prétendants au poste ont déposé leur candidature aujourd'hui. Ils sont 11 au total, mais le grand favori des sondages, le chouchou des bookmakers, c'est Boris Johnson, ancien maire de Londres, ancien ministre des Affaires étrangères. Loufoque, foutraque, dilettante, mais pour ses partisans, le seul à pouvoir desserrer l'étau qui menace les Tories d'anéantissement entre le parti du Brexit, grand gagnant des européennes, et le principal parti d'opposition, le Labour. Boris Johnson qui a donné une interview ce week-end au Sunday Times pour lancer sa campagne.
We will have in the UK a new administration with a new mandate. And we will have a different attitude in that negotiating team, and I will be giving personal direction.
S'il l'emporte, vous l'entendez, il promet une nouvelle administration pour un nouveau mandat, une nouvelle attitude pour négocier la sortie du Royaume-Uni de l'UE avec les partenaires européens. Et pour obtenir un meilleur accord, il menace même de ne pas payer la facture du Brexit s'il devient Premier ministre. Parce que, comme il le dit, c'est tout de même extraordinaire qu'on soit d'accord pour signer ce chèque en entier avant de parvenir à l'accord final. Boris Johnson est favori, mais dans le passé, ce n'est jamais le favori qui l'a emporté. Alors penchons-nous avec Marie Billon sur deux autres candidats qui ont leur chance, eux aussi. Dominic Raab, l'ex-ministre du Brexit, et Rory Stewart, ministre du Développement international.
C'est une campagne qui ne se jouera que sur le Brexit, ou presque, pour un deal ou pour un no deal plus précisément. Rory Stewart et Dominic Raab sont complètement à l'opposé sur cette question. Le premier a voté pour rester au sein de l'Union européenne en 2016, au contraire du second, qui a été ministre du Brexit de juillet à novembre 2018. Le 15 novembre précisément, il a démissionné pour marquer son opposition à l'accord de Theresa May qui raccrochait encore trop le pays à l'Union européenne, selon lui, et il n'a pas changé d'avis depuis.
I will not ask for an extension.
Dominic Raab parle ici à la BBC. Pour lui, la sortie de l'Union européenne doit avoir lieu, quoi qu'il arrive, le 31 octobre prochain.
Je serai le Premier ministre le mieux placé pour obtenir un deal qui conviendra au Parlement. Il faut qu'on garde la possibilité de sortir sans accord. Je me battrai pour un accord plus juste pour le Royaume-Uni en négociant une alternative au backstop pour la frontière irlandaise. Sinon, on sortira fin octobre avec les règles de l'OMC.
Dominic Raab et Rory Stewart ne sont finalement d'accord que sur un point, pas question d'organiser un second référendum. Mais le ministre du Développement international n'approuve absolument pas les propos de Raab. Il veut éliminer, lui, légalement, la possibilité d'un no deal et puis...
Faire du commerce sur les règles de l'OMC. C'est le pire qu'on puisse faire. Ce sont les règles appliquées, par exemple, à l'Afghanistan.
Autre contraste entre les deux hommes, ce qu'ils ont retiré de leurs expériences professionnelles. Dominic Raab est avocat en droit international. À la fin des années 90, il a participé aux négociations israélo-palestiniennes dans le cadre des accords de paix d'Oslo. Mais Rory Stewart aussi a l'habitude des situations internationales tendues. Il a été lieutenant-gouverneur de la coalition militaire en Irak entre 2003 et 2004. Il peut aussi se vanter de quelques exploits peu ordinaires, d'avoir parcouru 9600 km de la Turquie au Bangladesh en passant par les territoires contrôlés par les talibans en Afghanistan ou bien encore d'avoir aidé sa femme à accoucher de leur fils. Et aujourd'hui, tous deux veulent être leaders de leur parti, mais ils ne s'y prennent pas du tout de la même manière.
Et je suis de retour avec ma caméra tremblotante, cette fois au marché de Lewisham. Venez, venez me parler, je serai ici au marché de Lewisham pendant ces deux prochaines heures.
Rory Stewart mise sur les réseaux sociaux et la discussion directe avec le public, comme le montre cette vidéo postée sur Twitter alors qu'il sillonne le pays. Dominic Raab, lui, est moins à l'aise dans ce genre d'exercice. Lui va droit au but sur les plateaux télé.
Would you describe yourself as a feminist?
Il assume complètement d'être à la droite du Parti conservateur, la plus populaire en ce moment, celle qui estime qu'il faut croire en son pays. Une phrase qu'on entend souvent et que Rory Stewart a raillé.
L'autre jour, j'essayais de faire entrer trois sacs poubelles pleins dans une poubelle de petite taille. Ma femme a dit d'arrêter, que ça ne rentrerait pas. Je me suis dit, ça sonnerait comment si je me retournais et que je lui disais, fais un peu plus confiance à la poubelle.
Rory Stewart est un outsider. Dominic Raab est une tête connue dont les modérés dans le parti veulent se débarrasser. Rory Stewart, lui, a le mérite et le désavantage d'avoir été presque un illustre inconnu il y a encore quelques mois.
Et le nom du vainqueur devrait être connu d'ici fin juillet. Un abri, un chez-soi, difficile de trouver un toit quand on est migrant en Grèce. Le gouvernement veut passer à la prochaine étape pour les réfugiés, celle de l'intégration. Mais la méthode choisie est dure. Ceux qui ont obtenu l'asile depuis plus de 20 mois doivent désormais quitter les appartements du programme d'accueil des réfugiés. Dans un pays touché par la crise où un peu moins d'un Grec sur 5 est toujours au chômage, trouver un appartement relève du parcours du combattant. C'est un reportage de Charlotte Stievenard.
Dans le centre d'Athènes, quelques centaines de bénévoles et de réfugiés protestent contre l'évacuation de certains squats, mais aussi contre le départ forcé des appartements prêtés par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Imtiaz Naqvi Sayed, pakistanais de 56 ans, est venu avec sa famille.
Le gouvernement et le HCR nous ont demandé de quitter l'appartement qu'on nous avait fourni. Ils nous ont dit qu'à la fin du mois, on devait partir. Comment est-ce possible ? Nous demandons qu'on nous laisse du temps et qu'on nous donne une assistance financière, car quand on aura trouvé la maison, on devra payer le loyer.
Quelques jours plus tard, nous le retrouvons avec sa fille et sa femme dans l'appartement dans lequel il loge depuis avril 2016 et qu'ils doivent quitter prochainement.
Hello, how are you?
Zara, 30 ans, et son père nous font visiter.
This is our corridor.
Ça, c'est l'entrée.
And this is our bedroom.
Là, la chambre où on dort, moi et ma mère.
This is our kitchen.
Et puis ici, c'est la cuisine. Je suis désolée d'avoir dû séparer mes parents.
This is our living room.
Mais là, c'est le salon où je vis avec mes deux fils.
We live, my two sons and me.
Zara a la chance de gagner sa vie. Cette informaticienne de formation travaille comme traductrice pour une organisation non gouvernementale. Ses deux frères gèrent un petit tabac acheté grâce à un microcrédit. Mais malgré ses revenus, ils n'arrivent pas à trouver d'appartement, comme l'explique le père Imtiaz Naqvi.
Nous cherchons sur Internet et nous sommes aussi allés voir une agence. Mais ils nous disent tous qu'il n'y a rien pour l'instant. Quand on appelle après une recherche sur le net, la question qui vient tout de suite, c'est « Vous venez d'où ? Vous êtes combien ?» Et quand on leur dit qu'on est une famille de 5 Pakistanais, c'est toujours la même chose. L'appartement n'est prévu que pour 2 ou 3 personnes et pas pour les Pakistanais. On subit une vraie discrimination.
D'autres leur demandent 3 mois de caution. Après plusieurs semaines de recherche, la famille a fini par trouver quelque chose. Mais pour ceux qui n'ont pas de travail, c'est encore plus difficile. C'était encore le cas de Jean-Marc Adico il y a quelques semaines. On le retrouve sur la place Amérikis à Athènes. Cet Ivoirien de 23 ans vit en Grèce depuis 3 ans et demi. Après avoir cherché à partir en France, il s'est décidé à rester. Il y a quelques jours, ce réfugié reconnu a enfin réussi à trouver du travail. Il décharge des conteneurs dans une zone industrielle.
Je ne peux pas dire que c'est un travail. Comment je peux travailler du matin à 8h, quand 17h, 7h. C'est comme il faut imaginer, si le matin je mange 2 euros, le soir j'ai mangé 2 euros, à 7 euros ça reste 3 euros.
Impossible de louer un appartement dans ces conditions, Jean-Marc a dû quitter celui du HCR il y a quelques semaines et depuis, chaque soir, il cherche où dormir.
Bon, il y a les autres qui disent non, ah, viens faire ça pour moi, viens vendre la drogue pour moi, je te propose ça, si tu acceptes, c'est ça, donc ça ne me dit rien, donc je n'ai jamais tombé dans les pièges, voilà.
C'est au plus fort de la crise en 2015 qu'a été lancé Estia, ce programme d'accueil des demandeurs d'asile dans des appartements. Financé par l'Union européenne et géré par le HCR, il permet d'héberger 25 000 réfugiés. Le programme devait au départ permettre d'accueillir pendant 6 mois les candidats à la relocalisation. Il a été étendu aux demandeurs d'asile vulnérables. Sauf que, comme l'explique Boris Chassirkov, le porte-parole du HCR, le gouvernement grec n'avait pas appliqué ce principe jusque-là.
À cause des difficultés rencontrées par le système d'accueil des demandeurs d'asile et l'absence de perspectives d'intégration, la période a été étendue de façon presque illimitée. Dans le programme Estia, nous avons environ 6300 réfugiés et certains ont obtenu l'asile il y a 2 ans. Du coup, le gouvernement a décidé que ceux qui bénéficiaient du système d'assistance depuis plus de 20 mois devaient quitter les logements. L'assistance financière, elle, pourra se prolonger pendant 3 mois. Ils auront accès à un nouveau programme de formation géré par le ministère du Travail. Ils seront aidés, si besoin, pour accéder au revenu minimum. Mais si on les reconnaît comme vulnérables, ils pourront rester dans l'appartement du HCR.
Des expulsions ont déjà eu lieu en mars, d'autres doivent suivre ce mois de juin. Pour le gouvernement, il s'agit de faire de la place pour les nouveaux demandeurs d'asile qui arrivent sur les îles grecques de l'Est de la mer Égée. Plus de 9000 sont arrivés depuis le début de l'année. L'Espagne, première porte d'entrée des migrants en Europe, voit de son côté arriver des milliers de mineurs non accompagnés, des enfants qui traversent seuls à la recherche d'un avenir meilleur. La Catalogne, dans le nord du pays, accueille à elle seule 30% de ces mineurs étrangers non accompagnés. On dit les menaces. Et le gouvernement régional doit ouvrir en urgence des centres d'accueil pour les protéger jusqu'à leur majorité. Mais ces centres ne font pas l'unanimité, Élise Gazangel.
L'image a choqué la Catalogne. Le 15 mai dernier, des habitants de Rubí, à 30 km à l'ouest de Barcelone, ont sifflé et hué la Degaya, la directrice générale chargée de l'enfance au gouvernement régional. Elle pensait assister à une réunion d'information sur l'ouverture d'un prochain centre d'urgence, mais au lieu de cela, une centaine de voisins s'étaient réunis pour manifester leur opposition à l'ouverture et Esther Cavanes a finalement dû abandonner la place escortée par la police. Quelques jours après l'incident avec la directrice générale, plusieurs associations en faveur de l'accueil cette fois ont organisé une manifestation dans la ville. Sur la place de la gare d'où doit partir le cortège, certains habitants froncent les sourcils en lisant les pancartes de soutien aux mineurs. Juan Moreno est l'un d'entre eux.
Il y a trop de chômage ici. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils sont mineurs, mais quand ils auront 18 ans, ils seront dehors. Tu le sais parfaitement. Et où ils iront, ces chiens des rues, si je peux me permettre? Toi, t'as un chien qui meurt de faim et tu l'abandonnes, il ira où? S'il n'a pas de travail, ni rien, ça n'apportera que des mafias qui les recruteront pour la drogue, pour tout.
En traversant Rubí, les manifestants scandent des slogans antiracistes. Bras levé, Conchita Sanchez rappelle que la ville où elle est née a accueilli l'immigration depuis toujours. La Catalogne étant une région riche qui a longtemps eu besoin de main-d'œuvre pour se développer.
Quand je suis née, il y avait 3000 habitants en 1945 et maintenant on est 75 000. On n'est pas tous de Rubí, il y a de la diversité ici, c'est ça notre richesse.
Malgré les divisions au sein de la population, le gouvernement régional tient bon. Esther Cavanes, la directrice générale chargée de l'enfance.
On va travailler pour que les gens comprennent quel type de centre ce sera, comment on va le gérer dans la ville et comment on fait ailleurs, partout en Catalogne. On a ouvert plus de 180 centres dans la région depuis l'an dernier et ils cohabitent parfaitement avec la population. Le résultat est très bon et même meilleur que ce qu'attendaient les gens.
De lo que esperaban la mayoría de la gente.
Face à cette situation, des ex-MENA se mobilisent également. Leur jeune association a pour la première fois organisé une conférence de presse. Pour Choumoum, l'un d'entre eux, les derniers événements ont été un électrochoc.
Ça m'a troublé. J'étais mal en voyant ça. Parce que j'étais l'un de ces mineurs étrangers.
Tour à tour, ces jeunes adultes, désormais intégrés dans la société, se sont succédés devant les micros pour dénoncer le racisme d'une partie des habitants de Rubí. Iman a 19 ans.
Vous vous êtes demandé pourquoi on est parti et pourquoi on est ici, pourquoi on abandonne notre pays. Si on vient ici et qu'on laisse notre famille et notre entourage, ce n'est pas pour rien.
La gorge nouée, elle poursuit.
On a un cœur aussi, des sentiments, comme tout le monde. Pourquoi vous ne pensez pas qu'on pourrait être votre enfant, votre petit-enfant, votre frère ou votre sœur? On est des personnes, on n'est pas des criminels, on est juste des enfants.
À Rubí, les travaux de réhabilitation du centre sont pour le moment toujours à l'arrêt et les négociations continuent afin d'aider ces mineurs qui ont traversé seuls la frontière sur un bateau de fortune ou cachés dans des camions à la recherche d'un meilleur futur.
Logement, travail, études, on fait le tour d'Europe de l'intégration des immigrés avec Daniel Vigneron du site myeurope.info. C'est l'Autriche et la Suède qui accueillent le plus d'immigrés d'après les derniers chiffres d'Eurostat pour 2018, presque un cinquième de leur population. Si l'on ne compte que les immigrés non européens, la Suède arrive toujours en tête avec 13% de résidents nés hors UE. La France est loin derrière. Le Royaume-Uni qui fait rêver bon nombre de migrants aussi. Bonjour Daniel.
Bonjour Juliette.
Cette notion d'immigré, est-ce qu'elle rend compte de toutes les populations qui sont ressenties comme non autochtones ?
Bonne question en effet. Selon la définition de l'OCDE, un immigré est une personne résidant dans un pays d'accueil, mais née dans un autre pays que cette dernière ait ou non obtenu la nationalité de son pays hôte. Mais l'organisation s'est intéressée également aux populations non seulement nées à l'étranger, mais encore à celles dont un ou deux parents sont eux-mêmes nés à l'étranger. Une notion beaucoup plus large qui change la donne. Pays de vieille immigration, la France, avec 27% d'habitants d'origine immigrée, soit près de 18 millions de personnes, est seulement devancée par la Suède, 31%, mais elle précède cette fois l'Allemagne et le Royaume-Uni, 23%, et distance l'Italie ou l'Espagne, 12 et 13%. Un rappel toutefois, plus de la moitié de la population d'origine immigrée vivant dans l'Hexagone provient de l'Union européenne.
Et Daniel, est-ce que toutes ces personnes s'intègrent bien ?
Les paramètres explorés par l'OCDE sont nombreux. En premier chef, ils concernent la maîtrise de la langue et le niveau d'éducation. En ce qui concerne la langue, la France obtient le plus mauvais résultat des grandes nations d'immigration de l'UE. Ainsi, le programme international pour le suivi des acquis des élèves, plus connu sous l'acronyme PISA, indique qu'en France, 45% des enfants de 15 ans nés à l'étranger ont une mauvaise compréhension de l'écrit. C'est plus que les 33 à 38% d'enfants qui sont, dans ce cas, en Italie, Allemagne, Suède ou Pays-Bas, et beaucoup plus que les 25% observés au Royaume-Uni ou au Danemark. Pour ce qui est du niveau d'éducation, la France se situe dans la moyenne européenne, avec un quart de ses immigrés de niveau universitaire, contre un tiers pour la population totale. Elle fait même plutôt mieux que ses voisins, à l'exception notable du Royaume-Uni, où plus de 50% de la population née à l'étranger va à l'université. Preuve que ce pays attire énormément d'étudiants.
Et si on parle maintenant des discriminations ?
Une bonne façon de les mesurer consiste à observer l'écart entre le taux d'emploi des personnes disposant d'un bon niveau d'éducation. En France, ces diplômés nés à l'étranger sont 13% de moins que les gens nés dans le pays à occuper un emploi. Cet écart n'est que de 11% en Allemagne ou en Suède, de 10% en Italie et en Espagne et seulement de 2% en Angleterre. L'Hexagone fait également mauvaise figure si l'on regarde la proportion des 15-34 ans issus de l'immigration qui sont soit déscolarisés, soit sans emploi. Ils sont 25% en France, plus qu'en Italie, 20%, qu'au Royaume-Uni, 16%, et surtout qu'en Allemagne ou en Suède, 10 et 11%. Seule l'Espagne, dont on connaît les problèmes de chômage, fait pire avec près du tiers des jeunes issus de l'immigration ne fréquentant pas l'école et n'ayant pas accès au marché du travail.
Et puis Daniel, on va parler de ce qu'il se passe en termes de revenus.
Si l'on compare le revenu médian de la population née en France avec celui des non-européens nés à l'étranger, on constate qu'il est inférieur de 36% pour cette catégorie d'immigrés. Cet écart de revenu est moins fort en Allemagne, 29%, et surtout au Danemark et aux Pays-Bas, 23 à 26%. En revanche, l'Italie ne fait guère mieux que la France à cet égard, tandis que l'Espagne, mais aussi de façon assez inattendue la Suède, affiche un écart nettement plus élevé de 44%. Il faut dire que dans ces deux derniers pays, plus de la moitié des immigrés n'ont qu'une formation de niveau primaire.
Alors Daniel, qu'est-ce qu'on peut conclure de toutes ces données ?
À l'évidence, en dépit du fait qu'elle est un pays d'immigration ancienne, la France paraît intégrer médiocrement ses nombreux résidents nés à l'étranger ou même ceux dont seulement un seul parent est immigré. Et cela en termes de revenus, d'emploi et d'éducation. Elle est la moins bien classée des pays comme la Suède, l'Allemagne ou le Royaume-Uni dont la population immigrée ou issue de l'immigration est importante. Et c'est bien au Royaume-Uni que cette population est de loin la moins discriminée par rapport aux résidents d'origine autochtone.
Merci Daniel Vigneron, à bientôt.
À bientôt Juliette.
Accent d'Europe, à la réalisation Ludivine Amado. Vous retrouvez notre podcast sur le site rfi.fr ou sur les réseaux sociaux. Et nous, on se retrouve ici demain à la même heure.